Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM. Extrêmement heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en vous rappelant ou en vous apprenant, si vous êtes nouveau, bienvenue dans ce cas-là, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore et musicale les petites images qui bougent sur les grands et les petits écrans, même dans le tramway. C'est dire. Je ne le fais pas à chaque fois, par contre, mais je vous rappellerai que, bien évidemment, notre générique est une musique de film. Comment pourrait-il en être autrement ? En l'espèce, celle d'un film de Blake Edwards tourné en 1962. En français, ça s'appelait « Diamant sur canapé », mais ce n'était pas un film érotique, puisqu'en anglais, ça s'appelait « Breakfast at Tiffany's », avec Audrey Hepburn et George Peoples dans les rôles principaux de ce petit bijou, dont la musique était signée de Henry Mancini, compositeur que les fidèles de 24 notes secondes ont appris à bien connaître. Et ce Moon River fut et est toujours un tube. On l'entend de temps en temps dans certaines bandes sonores ou ailleurs, repris, remixé, torturé, trahi, etc., etc. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien nous allons évoquer la carrière d'un compositeur de musique de film lui aussi américain, mais beaucoup plus rare et beaucoup moins connu que Henry Mancini, puisqu'il s'agit de David Amram, A-M-R-A-M, né le 17 novembre 1930, ce qui lui fait quand même un âge avancé, mais toujours là, un compositeur qui a beaucoup œuvré pour la musique de film, mais qui est plutôt connu des aficionados comme étant un grand compositeur et instrumentaliste de jazz, domaine musical que j'apprécie certes mais que je connais mal et sur lequel donc nous nous étendrons guère, si ce n'est évidemment pour entendre des partitions de films qui sont forcément interprétées de cette imprégnées, pardonnez-moi, de cette allure jazzy. On imaginerait mal un compositeur de jazz qui fasse par exemple des musiques de films en heavy metal, je vous rassure. Peut-être un jour dans 24 notes secondes, mais pas ce jour, ça c'est sûr. On va commencer cette exploration rapide de la carrière de David Amram en écoutant la bande originale d'un film de Elia Kazan, tourné en 1961, qui réunissait dans les principaux rôles, alors le couple glamour de l'époque, Natalie Wood, Warren Beatty, Natalie qui nous a quittés il y a déjà bien longtemps, mais Warren... Il est toujours là, lui, un peu décati quand même par rapport à 1961 où il était, comment dire, charismatique. Charismatique est un mot un peu faible. Allez, on écoute un hélas très court extrait de cette bande originale et je vous en dis un peu plus sur la fièvre dans le sang. David Amram dans 24 notes secondes. Hélas, un bien trop court extrait, mais pour tout vous avouer, c'est tout ce que j'ai trouvé de la bande originale de La Fièvre dans le sang, un film d'Elia Kazan, une musique de David Amram, auquel nous consacrons cette émission de ce jour. La Fièvre dans le sang en français, mais en anglais, ça s'appelait Splendor in the Grass, plutôt la splendeur dans l'herbe, quelque chose comme ça. Là encore, rien d'érotique, juste une allusion à un poème de William Wordsworth, poème bien connu. des amateurs de Scrabble. Non, pas seulement, évidemment. Poète bien connu du Nord américain pour un film qui se passait quelque part dans le Kansas, quelque part en 1929. Année terrible s'il en fut et qui justement racontait la vie de deux jeunes gens, Natalie Wood et Warren Beatty, donc pris dans la tourmente de la crise économique de 1929 et de ses conséquences sur les riches. On s'en moque un peu et surtout sur les pauvres qui avaient parfois misé beaucoup sur le mirage de la bourse. Comme quoi, tout cela ne nous change guère. Une histoire largement autobiographique pour Elia Kazan et qui s'inscrit dans ce que ses biographes appellent une sorte de cycle autobiographique, puisque juste avant ce film-là, on avait vu Le Fleuve Sauvage avec Montgomery Clift dans le rôle principal, alors qui lui était plutôt consacré à, c'était pas chronologiquement juste, aux après 1929, c'est-à-dire à toute la politique économique du New Deal du président Franklin Delano Roosevelt pour que le pays se relève de ce crash qu'il n'avait pas provoqué. Suivront ensuite deux autres films qui, là encore, nous repousseront dans le temps. America, America, consacré à l'émigration d'Elia Kazan aux États-Unis, et puis L'Arrangement, duquel nous reparlerons, puisque la musique en était aussi signée de David Amram, avec lequel nous allons continuer en écoutant cette fois un extrait d'une bande originale d'un film qui lui aussi date de 1961, avec lui aussi un couple choc. Alors Dina Merrill, qu'on a peu revu après, et Burt Lancaster, 1961, qui était, comment dire, charismatique ? Non, c'est un mot trop faible. Bon, voilà, j'arrête avec les comparaisons des pléonasmes. On écoute un extrait de cette bande originale. En anglais, ça s'appelle The Young Savages. Là encore, rien à voir avec le titre français. Le temps du châtiment dans 24 notes secondes. Extrait là encore de la bande originale d'un film de John Frankenheimer tourné en 1961. Un film intitulé en anglais The Young Savages, qui était plus clair que le titre français Le Temps du Châtiment, puisque le film était consacré à la jeunesse et à la délinquance juvénile. Comme quoi, là encore, il y a des sujets qui traversent les siècles, puisque nous étions en 1961. En l'espèce, cela se passait quelque part à New York, avec une guerre des gangs qui rappelait furieusement, même si le film ne sortit que l'année d'après, celle du West Side Story de Robert Wise et de Jerome Robbins, pardon, qui donnait à Natalie Wood, déjà évoqué, eh bien, l'un de ses rôles majeurs. J'en bafouille parce que je m'apprêtais à vous chanter Maria, Maria. Non, j'arrête. Ça sera plus simple comme ça. Et ce film signé John Frankenheimer, homme venu de la télévision, qui à l'époque commençait à concurrencer Hollywood, eh bien ce film fut la première rencontre entre John Frankenheimer et Burt Lancaster. Le premier venant de la télévision, le second venant d'obtenir un Oscar l'année précédente pour Elmer Gantry et le charlatan. Donc Elmer Gantry, le charlatan, pardonnez-moi, donc Burt Lancaster était déjà une star, John Frankenheimer allait dans son genre le devenir, et ces deux-là se retrouvèrent et s'apprécièrent donc, puisqu'on les vit ensuite dans quatre films différents. Le prisonnier d'Alcatraz, 1962, 7 jours en mai, 1964, Le train, 1965, et le méconnu et pourtant très mélancolique et très subtil et très réussi, je vous le conseille, Les parachutistes arrivent. Alors, ce n'est pas du tout un film de guerre, contrairement à ce que vous pouvez croire, plutôt un film qui se passe quelque part dans l'Amérique profonde et qui est plein de tendresse et d'amertume. Voilà, j'ai dit, ça s'appelait « The Gypsy Moths » in English. I let you translate. I won't translate for you every time. No? Ok. Allez, on reprend en français. On a donc écouté un extrait de cette bande originale et on va rester, eh bien finalement, on va rester avec les mêmes, puisque en 1962, on retrouva aussi John Frankenheimer et David Amram, cette fois, mais pas Burt Lancaster, pour un film qui s'appelait Un crime dans la tête. En anglais, ça s'appelait The Manchurian Candidate. Je n'y arrive plus si les titres français sont aussi différents des titres anglais. Allez, on vous débrouille tout ça après avoir écouté, alors, pour une fois, un plus large extrait de cette bande originale, toujours signé de David Amram dans 24 notes secondes. Thank you. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant qu'on écoutait ce morceau, je me suis commandé un martini dry. Oui, deux, d'accord. Avec quelques tomates cocktail et un petit peu de cacahuètes, j'ai profité de cette ambiance jazzy, saxo à mort, c'est peu de le dire. Un extrait de la bande originale du Crime dans la tête de John Frankenheimer avec une musique de David Amram. Alors, une musique qui reflète assez mal le contenu fort difficile et brutal de ce film où l'on voyait des soldats américains capturés pendant la guerre de Corée, soumis à un lavage de cerveau qu'ils oubliaient évidemment, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, renvoyés chez eux pour assassiner le président des États-Unis. Évidemment, ça loupait, évidemment. Avec dans ses rôles principaux Frank Sinatra, Laurence Harvey, pour le rôle des garçons, et Janet Leigh, la délicieuse, et Angela Lansbury, qui est pas mal non plus, dans le rôle des filles. Un film paranoïaque comme on en voyait beaucoup à l'époque sur des histoires de politique fiction. John Frankenheimer lui-même tournera en 1964, 7 jours en mai, déjà évoqué, avec Burt Lancaster, qui s'offrira de ma part à l'histoire de la prise du pouvoir aux États-Unis par un militaire ou quelque chose de ce genre. On voit aussi le militaire, c'est Burt Lancaster en même temps, hein. C'est comme on veut. Et puis surtout dans le genre, il y a le chef-d'œuvre absolu, le Docteur Folamour de Stanley Kubrick, tourné en 1964 avec Peter Sellers évidemment, qui était dans le côté politique-fiction, une prémonition. On va le dire comme ça. Ensuite, eh bien, les Américains, qui sont quand même assez paranoïaques dans leur genre, poursuivirent dans les années 70. C'est vrai que dans les années 70, il y a eu aussi l'affaire du Watergate et quelques autres pas piqués des verres avec les hommes du président de Pakula en 76 et du même en 74 à cause d'un assassinat. Bref, le genre paranoïaque, et c'est peu de le dire, a de l'avenir. Et il en avait déjà en 1962 avec ce film, juste pour mentionner que le scénario était signé de George Axelrod. Mais pourquoi est-ce qu'il nous dit que le scénario était signé de George Axelrod ? Eh bien, parce que c'est aussi le monsieur qui avait écrit le scénario de Diamant sur canapé, que vous n'avez pas pu oublier si vous suivez cette émission depuis le début. Je vous rappelle quand même les fondamentaux. Divergence FM, 24 notes secondes. Allez, on va passer à autre chose. Et alors, on va faire un paquet d'années en avant, puisque David Amram, qui vient de publier un livre, j'aime beaucoup le titre, qui s'appelle « David Amram, les 80 prochaines années ». Le gars a déjà 80 ans, mais ma foi, il est plutôt bon pied, bon œil. Eh bien, il nous a composé en 2013, c'est vous dire que nous faisons un saut dans le temps, la bande originale d'un film dans le principal rôle duquel j'y arrive, on retrouvait Kathleen Chalfant, je ne vois pas du tout qui c'est, Anne Kerdoulea. Alors si vous voyez qui c'est Kerdoulea, puisque c'était l'astronaute de 2001, lui aussi ça ne le rajeunit pas, puisque 2001, contrairement à ce que son titre indique, mais vous l'aviez deviné, il est de 1968, cet autre chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Le film, il s'appelle « Isn't it delicious ?» Est-ce que c'est pas délicieux en français? Mais comme il n'a pas été traduit, enfin comme il n'est pas sorti en France, c'est moi qui vous le traduis. Le réalisateur, il est de Michael Patrick Kelly. Et en fait, on en ignore tout, sauf que la musique, elle est de David Amram. Dans 24 notes secondes. Thank you. J'attendais que le piano ait fini. Ben oui, c'est que du piano. Un extrait de la bande originale Isn't It Delicious, un film de Michael Patrick Kelly, une musique de David Amram, toujours bon pied, bon oeil pour un compositeur, qui est né en 1930. Et bien faire une musique de film en 2013, ma foi, je dirais chapeau. Et on va se quitter en écoutant la bande originale d'un film d'Elia Kazan. Alors là, à nouveau, encore un saut dans le temps, puisque ce film, il date de 1969. Ça s'appelle L'Arrangement. Et ça s'appelle pareil en anglais, figurez-vous, ça va me changer. On y retrouvait dans les rôles principaux Kirk Douglas, Faye Dunaway et Deborah Kerr. Là encore, un casting de rêve pour une évocation, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de La Fièvre dans le sang, largement autobiographique, même si Kirk Douglas joue dans le film le rôle d'un publiciste qui remet en question la vie pourtant brillante qu'il a eue. Eh bien, le roman duquel le film est inspiré, il est signé d'Elia Kazan lui-même, et la vie de Kirk Douglas, elle est largement inspirée aussi de celle d'Elia Kazan. Le tout est une petite merveille, il faut le dire, un très très grand film, assez peu connu, à vrai dire, d'Elia Kazan, qui n'en tournera plus que deux ensuite. Un petit film plus ou moins intimiste sur la guerre du Vietnam en 1972, Les Visiteurs, et Le Dernier Nabab avec Robert De Niro, 1976, déjà 40 ans. Je n'y crois pas, une merveille absolue sur l'Hollywood de dans le temps. Allez, on se quitte sur cette bande originale absolument magnifique de David Amram, avec des accents arméniens, puisque, je le rappelle pour ceux qui défendent tout comme moi la cause, David Amram, comme son nom l'évoque, eh bien il était d'origine arménienne. Pardon David, voilà 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui, au revoir, à bientôt, see you, bye bye.